Discours de la méthode. Et qu'il vaut mieux écrire discours de la méthode pour bien conduire sa raison et pour chercher, ou pour trouver, la vérité dans les sciences. C'est un programme, hélas. Et c'est presque un programme électoral. Et il a été presque aussi peu réalisé qu'un programme électoral. Quand, au lieu de relire le programme, et surtout le titre du programme, et surtout le commencement du titre du programme, on considère les résultats, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Descartes a été un grand philosophe, un grand métaphysicien, un grand mathématicien, un grand savant. Mais un grand parmi d'autres, à son rang, au même rang que d'autres, de la même sorte et de la même nature que d'autres, dans le même ordre que les autres, dans le même ordre de certitude et dans le même ordre de travail, nullement un homme hors pair et hors classe, un homme hors cadre, un homme à qui une soudaine méthode, brusquement apparue dans l'histoire du monde, aurait livré un secret d'infaillible et de totale certitude. Il en est de ce discours de la méthode comme des fameuses règles baconiennes. Les tables de Bacon n'ont jamais fait faire une invention ni une découverte. Il n'y a pas d'exemple qu'une invention ni une découverte ait été faite par un officiel. Les inventeurs et les découvreurs suivent de tout autre instinct. Les inventeurs et les découvreurs courent de tout autre aventure. Les inventeurs et les découvreurs n'ont jamais été des fonctionnaires de l'enregistrement. Les tables de Bacon n'ont jamais servi qu'aux professeurs à montrer comment une invention et une découverte, mais c'est toujours une invention, aurait dû être faite après qu'elle avait été faite. Quant à Bacon, il n'a jamais rien inventé que les tables pour que les autres inventent. Il n'a jamais rien découvert que les tables pour que les autres découvrent. Ou plutôt, les tables pour que les autres aient inventé. Les tables pour que les autres aient découvert. Les tables de Bacon n'ont jamais servi qu'aux historiens des inventions à expliquer comment les inventions avaient été faites, après qu'elles avaient été faites, et même comment il était fatal qu'elles se fissent, et qu'elles se fissent ainsi. Ce n'était pas ça du tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une histoire, et surtout peut-être qu'il y ait des historiens. Les tables de Bacon sont peut-être faites pour le contrôleur, et pour l'inspecteur du contrôleur. Elles ne sont certainement pas faites pour le Wattman. Je n'en dirai point autant de Descartes. Il a inventé lui-même. Il a découvert lui-même. Mais le Descartes qui a inventé, le Descartes qui a découvert, le Descartes philosophe, métaphysicien, mathématicien, physicien, physiologiste, psychologue et autres, était un philosophe et un géomètre et un mécanicien et un physicien de génie qui ne procédait pas directement du discours de la méthode, qui n'était pas en liaison directe, en fonction continue et pour ainsi dire en création continue du discours de la méthode. Quoi qu'il en eût, et qu'il en pensât lui-même. C'était un métaphysicien à son rang, à sa place, qui fut haute, un géomètre à son rang, un mécanicien à son rang, un physicien à son rang, parmi les premiers, nullement un métaphysicien, un géomètre déduit, et continuellement déduit, nullement un métaphysicien, un géomètre, un mécanicien, un physicien à qui un secret de méthode soudainement surgi dans l'histoire du monde eût conféré cette infaillibilité promise à l'extérieur. Et je vois aujourd'hui que dans l'astronomie et la mécanique et la physique céleste, On revient à l'hypothèse des tourbillons cartésiens. Et j'en suis fort heureux, car ça aura été un beau coup de génie. Mais de la divination du génie. Et je serai plus heureux encore quand on y sera revenu pour la physique générale. Mais si on y revient, l'Allemand dit, si on y reviendra. Ce ne sera point parce que l'idée de tourbillon est claire et distincte. Ce sera, et parce qu'elle sera plus commode, et parce qu'elle épousera de plus près de nouveaux aspects de la réalité physique. Ce n'est pas en fonction du discours de la méthode que l'on réadoptera l'hypothèse des tourbillons cartésiens. Ce ne sera même pas en fonction de la physique cartésienne. Ce sera, si je puis dire, en proportion de la physique tout court, et en vue de la physique tout court. On reprendra l'hypothèse des tourbillons cartésiens parce qu'elle rendra mieux compte des faits, des observations, des calculs établis, à partir des faits et des observations. On ne la reprendra point par goût, mais par force. On ne reprend jamais rien que par force. On ne la reprendra point par vertu, mais par grande nécessité. On ne la reprendra point pour assurer l'ordre de la pensée. Après 2 siècles et bientôt 2 siècles et demi, on a fini par s'apercevoir que les lois de l'attraction et de la gravitation universelle étaient généralement applicables et parfaitement calculables, mais que l'hypothèse même de l'attraction à distance et de la gravitation à distance était parfaitement impensable, c'est-à-dire, enfin, que Newton est métaphysiquement impensable. Car on voit mal comment un éther serait un conducteur parfait de l'attraction et de la gravitation, comment un éther conduirait instantanément de l'attraction et de la gravitation à distance, comment un éther ferait des transports instantanés de force qui seraient celles de l'attraction et de la gravitation. On ne reprendra donc point l'hypothèse des tourbillons cartésiens pour assurer l'ordre, ni pour assurer la pensée, ni pour assurer le discours, ni pour assurer la méthode. On la reprendra parce que la réalité sera plus comme ça, ou qu'elle paraîtra plus comme ça, ou qu'on la trouvera plus comme ça. On ne reprendra pas l'hypothèse des tourbillons cartésiens parce qu'elle sera en règle avec le discours de la méthode, mais parce qu'elle sera en règle, ou que l'on pensera qu'elle sera en règle avec le discours de la réalité. On ne reprendra pas l'hypothèse des tourbillons cartésiens parce qu'elle sera en règle avec Descartes, mais parce que l'on pensera qu'elle sera en règle avec la réalité. Descartes lui-même a-t-il déduit sa métaphysique, sa physique, sa physiologie, tout son système à partir de sa méthode? Il ne l'a pas même déduit tout entier à partir de ses principes. Il ne l'a pas même déduit tout entier à partir du « je pense ». Lui-même, il disait qu'il fallait que l'expérience allât au-devant de la déduction. Il entendait par là, et fort explicitement, que la déduction, ou mathématique, ou logique, ou métaphysique, et généralement philosophique, pouvait aboutir, et aboutissait quelquefois, ou souvent, à des cas doubles ou multiples, à des cas que Leibniz eut nommés indifférents, c'est-à-dire à des cas tels que la dernière solution déduite, la solution qui se trouve la dernière dans la voie de la filiation déductive, nous laisse pour ainsi dire en suspens devant 2 ou plusieurs solutions effectives égales, devant 2 ou plusieurs solutions réalisées ou réalisables égales, devant 2 ou plusieurs solutions de réalisation du détail. C'est pour arbitrer entre ces 2 ou plusieurs solutions égales, c'est-à-dire qui satisfont également aux conditions de la dernière solution déductive, que Descartes fait réintervenir l'expérience. Il admet, il veut que, marchant à l'envers, recurrens, regrediens, l'expérience remonte, partant des faits, des phénomènes, des observations, des expériences. qu'elle aille au-devant de cette voie déductive qui était restée, pour ainsi dire, sur le tranchant du sort. La réalité en chacun de ces points est comme une ville bloquée. L'armée royale est partie au secours, mais l'armée royale ne peut parvenir elle-même, et il faut qu'une sortie de la place même vienne au-devant d'elle et lui donne la main. En ce point intermédiaire entre l'homme et le monde, en ce point intermédiaire entre l'esprit et la réalité, en ce point intermédiaire où s'établit la liaison entre l'armée de secours et littéralement le secours propre de la place, en ce point s'opère pour Descartes la connaissance de la vérité. Et il ne faut point douter que, pour lui, elle ne s'opère absolument et que cette connaissance de la vérité ne soit absolue. Personne n'a plus rien à dire. L'esprit vient d'un côté, l'objet de l'esprit vient de l'autre et au-devant. Ni l'esprit n'a plus rien à dire, ni l'objet n'a plus rien à dire.